Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
All right. Eh bien, on est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Vigrosti. Preview de l'UFC 300 en direct du La Sueur Gym, vous le savez. Toutes les previews, analyses, pronostics de chaque événement vous sont apportées par BetClick, partenaire de La Sueur, Vigrosti. Donc avec le code Sueur sur BetClick, vous avez 100€ offerts, bien évidemment. Soyez raisonnable, et c'est pour les plus de 18 ans. Ceci étant dit, Vigrosti, la carte de l'UFC 300, elle est très chargée, mais c'est vrai qu'on
peut reprocher. En vrai, j'y pensais, je sais pas pour toi, oui, c'est sans aucun doute la carte la plus chargée de tous les temps en termes de niveau du début à la fin. Sans aucun doute pour moi.
Sans aucun doute possible et imaginable. Mais il nous manque quand même la petite cerise sur le gâteau,
oui,
avec le main event Disney. Oui. Dis-nous, sinon on va pas bouder notre plaisir.
Non.
C'est parti, générique. Swear.
L'UFC sa vie plus fort avec BetClick.
Combat en préliminaire qui est hyper intéressant, peut-être pourquoi pas le prochain title shot chez les light heavyweight main event, hein, ça aura pourquoi pas une incidence. Jiří Procházka numéro 2, ancien champion, contre Alexander Rakic numéro 5. Alexander Rakic, souvenez-vous, blessé malheureusement lors de son choc face à Blachowicz, ancien champion, et monsieur Rakic qui est favori, ça ne me surprend pas. Oui, il est favori. Oh là là, parce que moi je vois une victoire de Rakic.
Non, tu mets victoire, mais t'es un malade.
Je mets une victoire de Rakic. On verra tout ça dans la nuit du samedi à dimanche. On verra qui est malade. Alors,
ouais, on réglera bien nos comptes. Bon, honnêtement, je suis ultra surpris stylistiquement. Bon, déjà, Procházka, on le connaît. Avant de perdre contre Pereira, il était sur 13 victoires d'affilée, taux de finition de 97%. Sur ses 34 combats, dont 4 à l'UFC, honnêtement, 97% de finition, c'est absolument monstrueux et terrifiant. Il est complet, Procházka, mais c'est debout qu'il veut rester majoritairement parce qu'il crée le chaos. Il arrive avec des angles et front kicks, tu sais pas d'où ils viennent, des coups, des jabs, ils viennent du bas, des hanches, tu sais pas trop. Il met des coups de coude retournés, il met des KO comme contre Dominique Reyes. Ses bras arrière sont laser, ses déplacements, c'est erratique, c'est imprévisible. Mais du coup, bah, c'est absolument un enfer à combattre pour ceux qui sont en face. Au sol, il n'est pas en reste non plus, il a quand même soumis Glover Teixeira, alors c'était à la fin d'une guerre, mais il ne s'était pas fait soumettre avant ça, donc quand même, bonne défense en soumission, bonne lutte relativement, mais bon, bah, en tout cas, voilà, il est là, quoi. Mais c'est surtout debout qui fait vraiment sa destruction le plus, Procházka, et je suis étonné quand même que Rakic soit favori, parce que Rakic, il est complet. On a vu récemment qu'il voulait aussi aller au sol et qu'il y avait, il avait du succès pour mettre ses adversaires au sol et les y contrôler. Donc, à mon avis, c'est peut-être vers ça qu'il va se diriger contre Procházka, parce que c'est là où il y a le moins de risques. Parce que contre Procházka, debout, tu sais jamais ce qui peut se passer et jusqu'à la dernière seconde. Et debout, c'est un kickboxer plutôt classique pour Rakic. Beaucoup de 1-1-2, 1-1-2, low kick, des trucs comme ça. C'est relativement peu précis. Quand il touche, il fait mal, mais il touche pas énormément. Alors par contre, il y a des enchaînements quand il émet, attention, enfin, tu fais trois fois le tour de ton slip, comme contre Manua par exemple, mais je le vois pas aussi percutant debout que Procházka. Donc s'il arrive à mettre au sol Procházka et à le contrôler, ce qui est quand même pas évident, ça peut peut-être aller pour lui, c'est en 3 rounds, mais moi je vois une destruction de Procházka debout.
Ok, et bien moi je vois une victoire par TKO de Rakic au deuxième round.
Pourquoi tu fais ça?
Parce que je vois l'avenir. On avance avec le début de la main card. Et donc, Bonnie Cal contre Cody Brundage. Là, clairement, BetClick ne s'y trompe pas. La maison sur Bonnie Cal, cote à 1,02 contre cote à 9,75 pour Brundage. Bon, c'est le combat le plus déséquilibré de la soirée.
Bah, très clairement, c'est un gars qui s'appelle Cody Brundage qu'on envoie comme victime sacrificielle à la nouvelle superstar que l'UFC veut qu'elle devienne, qui est Bonnie Cal.
Et c'est pour ça aussi que Bonnie Cal est en main card.
Oui, voilà, parce que l'UFC mise énormément. Bah, en même temps, il est américain, belle gueule, Il finit ses combats, il est super smart et j'ai peu de doutes sur le fait qu'il va devenir champion. Quand vous l'entendez parler, c'est terrifiant, au-delà même de ses performances. Donc Bonical, 28 ans, c'était une superstar de la lutte aux États-Unis, folk style, avant de passer en MMA. En MMA, il n'y a personne sur les 5 combats qu'il a fait qui a réussi à lui résister plus de 3 minutes. Sinon, il éclate absolument tout le monde dans tous les domaines. Parfois même, il n'a pas besoin d'utiliser sa lutte. Et c'est vraiment ça, quand vous écoutez, quand il décortique les combats, sa préparation, etc. En fait, vous vous dites, ah oui, d'accord, c'est... En fait, il y a peu de personnes qui réfléchissent comme lui réfléchit. Et même quand tu vois comment il décortique, genre ce qu'il fait en combat, sa lecture du combat pendant que le combat arrive, en fait, t'as l'impression que le mec voit l'avenir aussi. Et donc, ce gars-là, Cody Brundage, est mis pour garnir le highlight et pour faire un gros finish qui fait plaisir aux familles américaines. Alors, il est chaud, hein, Brundage. Il fait mal quand il est debout. Et Rodolfo Vieira, il lui a mis un sale knockdown à un moment donné, parce que quand il touche, vraiment, il balance des énormes battoirs. C'est un ancien lutteur, mais pas du tout le même niveau que Bonical. Il me semble qu'il était en division 2 NCAA. Il s'est déjà fait dominer en lutte, notamment par Nick Maximoff. Il s'est déjà fait dominer au sol, notamment par Rodolfo Vieira et par d'autres gars. Debout, il s'est déjà pris des KO. En fait, il n'y a aucun endroit où il est extrême dans là où il a développé ses compétences. Et contre un gars comme Bonical... Voilà, c'est pour ça qu'il a. C'est une bonne progression quand même par rapport aux autres adversaires de Bonical, parce qu'il est à 10-5. Alors il est 4-4 à l'UFC, mais il est quand même à 10-5. Il est expérimenté, Brundage. C'est une bonne progression. Mais clairement, ils ont pris quel mec est-ce qu'on peut prendre pour que ça fasse un magnifique finish pour les fans, quoi.
Le pronostic
Bonical, soumission round 1.
Voilà, allez, Bonical, TKO, round 1. On enchaîne avec Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, l'un des chocs les plus attendus de cette UFC 300. Charles Oliveira cote à 2,77, 1,39 pour Arman Tsarukyan. Est-ce qu'on va avoir une passation, contrairement à ce qui s'est passé lors des précédents chocs entre les deux générations? Je pense notamment à BSD contre Dustin Poirier et il y a peu de temps également Charles Oliveira contre Benil Dariush.
Et Justin Gaethje
contre
Fiziev. Ouais. Donc l'arrière-garde est toujours là. Et alors quand on parle d'arrière-garde, Charles Oliveira, c'est la définition du MMA champagne, du MMA total. C'est d'ailleurs celui qui a le plus grand nombre de victoires avant la limite, le plus grand nombre de soumissions à l'UFC, le plus grand nombre de bonus de combat.
Tous les records se poussent.
Voilà, il est champion de tout, il a tous les records, Charles Oliveira. Et... il est extrêmement complet. On parlait tout à l'heure de Diego Lopez qui est opportuniste. Charles Oliveira, c'est ça au plus haut niveau mondial. C'est-à-dire que debout, quand il frappe, c'est un camion. Il est capable de mettre des knockdowns à Justin Gaethje. Il a un Muay Thai extrêmement complet. Il n'a pas peur d'aller au sol, donc il se libère complètement quand il est debout avec absolument toutes les armes. Ses genoux sont magnifiques, ses front kicks, ses kicks, ses coudes, ses directs, ses crochets. Absolument tout est magnifique, tout fait mal. Et en plus, maintenant qu'il a eu son opération aux yeux et qu'il ne voit plus tout le monde en triple, il est encore plus précis. Donc c'est, et quand il est au sol, on le sait, il est donc 16 soumissions, il a le record à l'UFC et c'est un enfer. Alors il peut être soumis parce que donc il recherche à chaque fois à progresser ou à te faire mal, il faut tout le temps qu'il y ait du mouvement pour Charles Oliveira, mais il laisse des ouvertures. Après voilà, est-ce que Arman Tsarukyan, 27 ans, le mec est un tueur à gages, les deux défaites qu'il a eu, Islam Makhachev et contre Gamrot, à chaque fois des combats ultra disputés, donc il a fait quand même un combat ultra disputé en grappling avec Makhachev
et contre ses débuts à l'UFC.
Voilà, pour ses débuts à l'UFC, contre Gamrot, c'est extrêmement serré aussi. Et le reste du temps, en fait, il est terrifiant parce qu'il est épuisant à regarder, en fait, Tsarukyan. Il est constamment sur toi, en train soit de te mettre en alerte parce qu'il veut te plonger dans les jambes, ou en tout cas qu'il feinte. Sinon, il te probe avec des jabs. Il fait mal aussi debout. On a vu ce qu'il a fait à Benil Dariush. En une seconde contre Dariush, il fait gros overhand derrière la garde. Un genou mais qui touche pas, mais ensuite il revient avec un bras arrière. En une seconde, trois coups. KO pour Benil Dariush. Et si ça va au sol, il fait du Khabib, donc il veut contrôler, il veut progresser. Il est peut-être un peu moins opportuniste et un peu moins finisseur que Charles Oliveira, mais c'est ça qui est incroyable avec ce combat, c'est que où que ça aille, ça va être spectaculaire et il va se passer des dingueries et ça va être à 100 à l'heure. Voilà, si je devais faire un petit wild card, je dirais peut-être, on l'a vu, il prend parfois beaucoup de crochets à gauche. On voit qu'il commence aussi à lever un peu plus la garde et on voit qu'il en a pris, qu'il a regardé lui-même les vidéos de ses combats précédents de Tsarukyan. Mais le crochet gauche de Charles Oliveira est tellement monstrueux que je me dis, allez, tant qu'à miser un truc, on sait jamais, je me dis... Il laisse des ouvertures de Tsarukyan et debout contre Oliveira, je vais peut-être mettre une petite piécette sur Oliveira pour un KO.
Ok, je vois malheureusement victoire de Tsarukyan par Décision unanime. On enchaîne avec Justin Gaethje contre Max Holloway pour le combat, pour le choc BMF. Cote à 1,41 pour Gaethje, 2,68 pour Max Holloway.
Ouais, bah là pareil, c'est un combat, de toute façon c'est ça l'avantage, c'est que déjà c'est en 5 rounds et ça ne peut pas, c'est impossible d'être ennuyeux parce que les deux n'ont jamais fait de combat ennuyeux de toute leur vie. Et là, c'est pareil. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que stylistiquement, ça risque de rester debout parce que les deux veulent rester debout, quoi qu'il arrive, dans tous leurs combats, c'est comme ça. Et j'ai, même s'il a eu plus de temps pour se préparer Max Holloway, j'ai un peu peur quand même du différentiel de puissance qu'on a vu la dernière fois contre Dustin Poirier. Il prend des coups, Max Holloway. Alors, ce qu'il veut, c'est te noyer. Au fur et à mesure que le combat avance, il est de plus en plus précis. Il avance de plus en plus. Il met de plus en plus la pression. Mais bah là, il va tomber contre un gars qui est connu, Justin Gaethje, pour ne pas forcément baisser en rythme. Et quand il te touche, il te balance, mais des battes de baseball, ça n'a aucun sens. Et j'ai du mal à voir un Max Holloway qui va ne pas prendre deux coups sur les 5 rounds, c'est impossible. Et les coups de Justin Gaethje, si t'en prends déjà 10-15 dans les 2-3 premiers rounds, je pense que t'es pas bien du tout. Il a jamais été mis knockdown Max Holloway.
C'est le challenge que s'est fixé.
C'est le challenge que s'est fixé Justin Gaethje, voilà. Mais là, j'ai vraiment peur pour Max Holloway. Son style en volume, je ne sais pas si ça peut marcher contre quelqu'un qui a un tel coup d'œil et qui est aussi fort sur une telle durée avec un tel coup d'œil et qui est bon et en plus bien coaché comme Justin Gaethje. J'ai vraiment peur du différentiel de puissance. Ça me brise le cœur, mais je mets Gaethje.
Je mets Gaethje également par décision unanime. Je ne pense pas que ce sera celui qui arrivera à terminer Max Holloway. En tout cas, je l'espère. On enchaîne avec le co-main event, particulièrement attendu là aussi, entre Weili Zhang et Xiaonan. Donc Weili Zhang favori avec une cote à 1,23 contre Yan Xiaonan, cote à 3,80. Et ce qui est intéressant, c'est que le combat devait être main event à l'UFC China en décembre dernier. Et finalement, il a été déplacé à l'UFC 300 pour le plus grand bonheur de tous les fans.
Et pour vous faire, parce que vous ne connaissez probablement pas Yan Xiaonan, pour vous faire un tout petit tour du propriétaire, en gros elle vient du Sanda, chinoise, donc c'est normal, comme quasiment tous les combattants chinois, ils viennent du Sanda. Et elle est très très bonne debout, donc quand elle frappe c'est rapide, ça fait mal. Honnêtement, c'est vraiment agréable à regarder, le striking de Yan Xiaonan. Quand elle met des coups, c'est vraiment pour pénétrer, que ce soit des low kicks dans la cuisse, que ce soit des jabs, elle vient vraiment pour t'éclater. Et elle y arrive, donc généralement, enfin soit elle met des KO, soit c'est des décisions hein, généralement. Mais elle veut rester debout, tandis que pour Weili Zhang, elle aussi vient du Sanda, extrêmement forte debout, et c'est là qu'elle fait aussi la différence généralement, mais elle est aussi très très bonne en lutte et au sol. Et c'est un peu un style contre style, avec donc Yan Xiaonan qui va rester en mode kickboxeuse probablement, et Weili Zhang qui va, à mon avis, vouloir mixer un peu les choses et essayer d'amener Yan Xiaonan au sol en eau profonde et de faire la différence ici. Elle peut très bien mettre KO Yan Xiaonan et l'inverse aussi, hein, mais elle aurait tort de se priver, je pense, Weili Zhang de toutes ses armes. Et donc, je vois bien Weili Zhang sur 5 rounds. En plus, à un moment donné, trouver la faille pour mettre Yan Xiaonan au sol et pourquoi pas la terminer.
Same here. Je vois une victoire de Weili Zhang par petit ticket au 4e round. Tranquille. Et le main event, qui est beaucoup plus disputé que ce que vous pensez. Parce qu'on a d'un côté Alex Pereira, ancien champion middleweight, actuel champion light heavyweight, contre Jamal Hill, vétéran des Dana White Contender Series, premier champion des Dana White Contender Series, ancien champion light heavyweight. Et donc un choc qui devrait, sans toute vraisemblance, se disputer debout. Cote à 1,69 pour Pereira, 2,05 pour Jamal Hill. Qu'est-ce qui va se passer, Birosti?
Déjà, il y a une stat, ça m'a fait marrer quand j'étais regardé, parce que tu sais, du coup, forcément, quand tu combats contre Pereira, c'est un champion de kickboxing, dont tu te dis, bon, il faut mixer un peu les choses, tu vois. J'ai été voir quelles étaient les statistiques de Jamal Hill pour ce qui est des takedowns. Sur toute sa carrière UFC, et il me semble que c'est 8 ou 9 combats, il a tenté le grand total de 0 takedown. Alors peut-être que c'est un secret bien gardé, peut-être qu'en fait il a les meilleurs takedowns de la catégorie. En tout cas, jusqu'à maintenant, donc il n'a jamais tenté d'emmener ses adversaires au sol. S'il y a un moment où c'est peut-être bien effectivement de commencer à le faire, c'est contre Pereira. Donc ça fait un baptême du feu dans les pires conditions possibles et dans l'enfer, mais enfin bon, c'est le moment. Et sinon, donc ça risque de se passer debout néanmoins, parce que en plus, pour quelqu'un dont on n'a jamais vu la lutte, et donc oui, ça peut être un secret bien gardé, mais le plus probable, c'est donc qu'il n'a pas une lutte d'élite non plus, sinon probablement qu'il l'utiliserait, j'imagine. Et contre Pereira, si tu restes debout, alors là, il est gaucher, Jamal Hill, et c'est vraiment un des trucs qu'il faut garder en mémoire, parce que beaucoup des armes de Pereira, notamment son low kick de la jambe arrière, enfin son low kick, son calf kick sur le mollet de la jambe arrière, son crochet du gauche, son jab au corps, ce sont des armes qui marchent beaucoup mieux quand le mec en face est en position de droitier aussi. Quand le mec en face est gaucher, les rares fois où on l'a vu, c'était contre Adesanya, sinon il affrontait que des droitiers Pereira, ben c'est beaucoup moins facile. Parce que le low kick qu'il peut mettre, donc c'est un low kick qui est avec sa jambe avant sur la jambe avant de l'adversaire, mais ça a beaucoup moins de puissance parce que ça a beaucoup moins de distance à parcourir pour, créer une inertie. Donc il fait un petit peu moins mal quand même. Et ses crochets gauche et ses jabs au corps, les jabs au corps, ben, c'est beaucoup moins facile. Ça rip parce que le corps est orienté de la mauvaise manière pour que ça pénètre bien. Et les crochets gauche, ben, y a l'épaule qui gêne. Il peut quand même les mettre, notamment en passant par au-dessus pour le crochet gauche, et puis il peut mettre des crochets au corps avec son bras arrière. Mais on voit beaucoup Pereira utiliser ses armes en crochet et un petit peu moins ses armes en direct. On ne le voit pas non plus mettre beaucoup de kicks avec sa jambe arrière, il en met de temps en temps, mais tandis que Hill, lui, il a donc, c'est un gaucher, il a passé toute sa carrière en gaucher, même si de temps en temps il change. Donc il est habitué à utiliser les armes des gauchers contre des droitiers, notamment son bras arrière. Ça c'est la classique, vous allez regarder le combat Robbie Lawler contre Rory McDonald, ils font que des bras arrière et ils passent quasiment tous. Et donc, des armes longues, comme des directs, notamment du bras arrière, de la part de Jamal Hill, et le fait qu'il soit un peu moins en danger, même s'il y en a quand même, avec les armes favorites de Pereira, font que, oui, quand même, l'avantage debout est à Pereira, mais que ça, probablement, ça peut être peut-être plus disputé qu'on ne le pense. Et, en tout cas, pour les armes, juste, voilà, Jamal Hill, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste un truc que j'adore, qui est ultra kiffant avec lui, c'est son relâchement quand il frappe. Mais vraiment, c'est jouissif à regarder. T'as l'impression, déjà, ça ne consomme aucune énergie, en plus, c'est plus difficile à voir venir parce que le mouvement est extrêmement relâché, les jabs, ils peuvent partir des hanches, etc. Et en plus de ça, il fait mal. Il a vraiment une optimisation du mouvement. À chaque fois, je pense à Skarbowski, notamment quand je vois ses kicks. Et il a des très bons high kicks, jambes arrière. Et lui, il a l'habitude de les mettre comme il est gaucher. Attention à ça quand même pour Pereira, parce que ça a mis des knockdowns, ou en tout cas, ça a mis dans le mal Glover Teixeira. Et voilà, les kicks, par exemple, de Jamal Hill, t'as l'impression qu'en fait, il balance sa jambe, il crée le début d'inertie, et après, il laisse sa jambe aller à ses petites affaires, faire sa vie. Et t'as l'impression que, voilà, il balance ses coups comme ça, c'est direct, poum, il les balance. Et un relâchement incroyable qui est magnifique à voir regarder. C'est une optimisation intéressante en termes de dépenses d'énergie et d'efficacité. Mais ce relâchement qu'il a, parfois, ça confine presque. Ah, t'as l'impression de voir un peu de la flemme. Parce qu'il est là, il balance son truc et il reste un petit peu là. Et il se fait contrer de temps en temps. Donc, il laisse des ouvertures. Et laisser des ouvertures contre Pereira, voilà, ça peut être une sentence de mort, quoi. Quid, donc.
Pereira KO, troisième round.
Ouais, je vais mettre Pereira aussi, mais je pense qu'il va y avoir des alertes en vrai. Hein. Donc je mets Pereira KO, troisième aussi, je sais pas pourquoi.
Allez, oh là là. Commençons par le premier combat qui ouvre la carte, et ça vous donne une idée un peu de la dinguerie. Deiveson Figueiredo contre Cody Gabrand, deux anciens champions. Ancien champion de la catégorie lightweight pour le flyweight pour le brésilien, et ancien champion bantamweight pour Cody Gabrand. Le favori étant Figueiredo.
Bah ouais, parce que c'est vrai qu'on a tellement eu des performances en dents de scie de la part de Cody Gabrand sur ces dernières années qu'en fait on sait pas trop quoi en penser. Parfois il est ultra spectaculaire, il met des KO en un coup. Parfois il a des performances un peu en demi-teinte, mais il gagne. Et parfois il perd, ou alors parfois même de manière spectaculaire aussi. Donc tandis que Figueiredo, non mais c'est vrai en soi.
Oui, non, c'est...
Tandis que Figueiredo, il est quand même relativement constant au plus haut niveau. Et alors là. Oui, ce sera le deuxième combat de Figueiredo dans la catégorie des bantamweights, parce que du coup, c'était contre Rob Font qu'il était dans le combat juste avant. Et on a déjà eu quelques réponses pour Figueiredo en ce qui concerne son gabarit. Donc, il passait de la catégorie des moins de 57 à la catégorie des moins de 61. Et pourtant, en termes de puissance, il n'a pas vraiment eu à rougir face à Rob Font, et même sur les phases de grappling, etc. Et encore moins en termes de puissance de frappe. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant, c'est que pour un combat d'ouverture de carte tout court, même pas de main carte, ces deux anciens champions, deux énormes cogneurs, et ça va dépendre un petit peu de quel Cody Gabrand on a. Ça va dépendre aussi de comment est-ce que l'un et l'autre abordent le combat. On sait qu'ils aiment bien tous les deux, potentiellement quand le combat se passe à distance rapprochée parce qu'ils ont des très bons crochets, il est très rapide et il a des très bonnes combinaisons, Cody Garbrandt. Et Figueiredo, c'est un bourrin quand il veut parce qu'il est aussi très technique, mais il y a une partie de sa carrière en flyweight qu'il a fait, Figueiredo, où grosso modo il avançait sans même se soucier de ce que tu lui balances et il veut juste te détruire le corps, la tête, etc. Donc ça va dépendre un petit peu. Cody Garbrandt, probablement qu'il va vouloir peut-être rester un peu plus à distance et essayer de le toucher sans trop se faire toucher et sans peut-être se faire choper. C'est un bon lutteur, mais après, Figueiredo est très très bon au sol. Donc peut-être que c'est ça que voudra éviter Garbrandt. Et puis voilà. Alors si ça va à la bagarre, pour terminer, effectivement, ça va être flippant parce qu'il y a des chances hein, que ça arrive. Mais si ça va à la bagarre, ça va être une fusillade. Je pense qu'on n'est pas prêt pour le chaos qui va claquer l'un ou l'autre. Mais les deux peuvent se mettre KO. Hein.
Et donc quel pronostic?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
J'ai envie de mettre Figueiredo.
Oh,
ouais, bah... Je me dis, si ça va dans des fusillades et des trucs comme ça, Figueiredo, j'ai un peu peur déjà du fight IQ de Garbrandt. Bon, ça, on a eu peur toute sa carrière. Mais même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a plus d'armes, qu'il peut arriver avec un game plan qu'il peut suivre peut-être un peu mieux. Et on a vu qu'il l'avait fait au fur et à mesure de sa carrière. Donc, en même, peut-être, pourquoi pas, en utilisant sa lutte et son sol, Figueiredo. Donc, j'ai envie de mettre Figgy. Ouais.
Figgy.
Yeah.
Figgy, money on Figgy. Là, je mets aussi, je mets aussi Figueiredo parce que c'est vrai que Cody Garbrandt, bah, depuis ses défaites et sa mauvaise passe, hein, il ne m'a pas complètement rassuré. Donc, victoire pour Figueiredo par décision unanime pour ma part. On avance avec Bobby Green contre Jim Miller. Jim Miller qui était de l'UFC 100, de l'UFC 200, il sera à l'UFC 300 contre Bobby Green qui ferme le top 15 puisqu'il est actuellement 14e chez les lightweights. Bon.
Déjà, il y a une stat qui est hallucinante quand même parce que c'est deux des plus gros vétérans de l'UFC, les deux. 103 combats de MMA pro cumulés pour les deux, 48 combats pro pour Bobby Green, dont 24 à l'UFC, et 55 combats pro pour Jim Miller, dont 43 à l'UFC, et son premier combat à l'UFC, c'était en 2008. Jim Miller, donc, il a 40 ans, donc les deux sont relativement, pour leur catégorie en plus, c'est vrai que c'est relativement vieux, il a 40 ans pour Jim Miller, 37 pour Bobby Green, mais les deux, et c'est ça qui est impressionnant, continuent là, même encore ces dernières années, d'affronter les tueurs à gages de la catégorie. Bobby Green, un petit peu au-dessus en termes d'adversité, mais quand même. Et en termes de style, bah, on a Jim Miller qui est très complet toute sa carrière. Il est très bon en lutte, au sol, debout, il sait tout faire. Et en plus de ça, l'expérience qu'il a, c'est vraiment... C'est génial à voir, en fait, c'est jouissif parce que t'as vraiment quelqu'un qui sait tellement tout ce qu'il fait sur le bout des doigts, que ce soit dans l'impréparation ou pendant le combat, que c'est magnifique. Tu peux pas faire plus gros vétéran que Jim Miller. Mais il y a pas, enfin, il est bon, il est excellent partout, mais il y a pas ce côté comme Bobby Green où, alors Bobby Green, lui, il veut rester debout, c'est sûr. Alors même si récemment il a soumis Tony Ferguson, mais ce que veut Bobby Green, c'est faire parler son anglaise, ses esquives, ses mouvements, et c'est là qu'il fait le plus mal et qu'il est le plus efficace. Donc probablement que stylistiquement, on va avoir un Bobby Green qui va essayer de rester à distance et de saupoudrer bien comme il faut la tête de Jim Miller. Et Jim Miller qui va probablement, j'imagine, soit utiliser ses kicks et sa lutte et son sol, ou en tout cas essayer de mixer un peu le tout. Mais voilà, j'aurais quand même tendance à privilégier Bobby Green. Peut-être plus incisif, peut-être un poil plus dangereux, j'allais dire. Mais enfin, c'est un finisseur de fou aussi, Jim Miller. Donc, mais voilà, juste en termes de compétences, peut-être un poil pour Bobby Green.
Et donc, le pronostic final ?
Bobby Green, KO deuxième.
Pour Bobby Green, KO troisième de mon côté. Premier combat féminin de la soirée. Et quel combat féminin ? Choc. Entre deux Brésiliennes. Numéro 5, Jessica Andrade contre Marina Rodriguez, numéro 6 de la catégorie strawweight. L'ancienne championne Jessica Andrade. Et ben on est à moins 110 de chaque côté en termes de favoris. Personne, tout le monde est perdu. Alors,
bah, en termes de style, Marina Rodriguez, c'est une meuf qui vient du Muay Thai et clairement, ça se voit dans son style de combat. C'est ce qu'elle veut, c'est rester debout. Elle adore le clinch parce qu'elle est très grande et très longiligne. Et elle fait mal quand même. Elle fait mal et elle finit aussi relativement régulièrement ses combats. Donc, quand elle gagne, de toute façon, c'est soit par décision, soit par TKO. Et c'est probablement là où j'imagine que ça peut se jouer. C'est que, quand on parlait de style entre Bobby Green et Jim Miller, là, c'est un peu pareil. Parce que donc Marina Rodriguez va vouloir rester debout, tandis que Jessica Andrade, j'ose espérer quand même qu'elle sait maintenant qu'elle est limitée debout, tu vois. Parce que oui, elle est très puissante, mais elle balance des battoirs comme des moulins à vent. Et quand ça touche pas, en fait, elle est complètement démunie, elle sait pas trop quoi faire.
Et c'est la même histoire depuis toujours.
Ah, depuis le début de sa carrière. Et ça, c'est assez triste, mais t'as vraiment l'impression qu'elle ne progresse pas. Ce qui est d'ailleurs pas une impression, enfin, on le voit dans ses combats. Et ben, oui, elle est puissante et oui, elle a affronté le top de top des de sa catégorie Jessica Andrade, et d'ailleurs dans les deux catégories, là c'est en strawweight, moins de 51, mais j'aurais quand même tendance à dire qu'elle peut être très technique, Marina Rodriguez, debout, et on a vu Jessica Andrade se faire dominer par des strikeuses qui savaient rester techniques. Et là, c'est pour ça que si elle fait pas n'importe quoi, et j'aurais tendance à dire peut-être pas trop utiliser le clinch quand même contre Andrade, parce que bon, c'est quand même une meuf qui a mis KO sur un slam, Rose Namajunas, donc plus tu réduis la distance avec Jessica Andrade, et plus ça peut te poser de problèmes, d'autant plus que du coup t'es à distance pour des uppercuts, ces crochets de l'enfer, parce que oui, elle touche pas beaucoup, parce que vraiment, il y a des moments, c'est des séquences, t'as l'impression que c'est un peu des gags, où elle court derrière la personne en mettant des grands crochets comme ça. Alors ça fait marrer jusqu'à ce qu'elle te touche, en fait. Donc faut quand même pas qu'elle te touche. Mais voilà, ça reste, en tout cas, il faut le dire aussi, la plus grosse finisseuse de la catégorie Jessica Andrade, avec 6 finishes. Elle a terminé 18 de ses 25 victoires en MMA. Et voilà, surpuissante. Mais en tout cas, si elle ne fait pas d'erreur, j'aurais quand même tendance à dire Rodriguez, qui peut techniquement dominer, et pourquoi pas finir, parce qu'on a vu que maintenant elle pouvait se faire finir, Jessica Andrade.
Donc Rodriguez par TKO ?
Ouais, Rodriguez par TKO.
Rodriguez par TKO. De mon côté, je mets Jessica Andrade par KO, troisième round. On enchaîne avec le dernier combat annoncé par Dana White de cette UFC 300, et quel combat, en tout cas, qui peut nous intéresser potentiellement pour notre cher BSD, qui promet beaucoup, entre Jalin Turner, numéro 10 de la catégorie lightweight, contre le numéro 13, Renato Moicano. Deux gars qui sont bien connus, qui ont connu leurs limites aussi dans cette catégorie. Ça promet.
Ouais, ça promet, et d'autant plus que, oui, ils ont connu leurs limites dans la catégorie, mais d'un autre côté, les deux sont... On a vu leurs limites, mais on voit aussi qu'ils en ont pris conscience et qu'ils sont en progression. Et ça, c'est vraiment kiffant parce qu'ils sont encore relativement jeunes pour les deux. Moicano, il est sur 18 victoires. Sur ses 18 victoires, ce que je voulais dire stylistiquement. Il y a 0 KO ou TKO et pourtant, il est super chaud debout en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il peut mettre en danger les gars, il peut faire mal, il est ultra affûté. C'est juste que comme il est tellement bon en jiu-jitsu brésilien et quand ça va au sol, d'ailleurs on l'a vu dans son dernier combat contre Drew Dober, qui est extrêmement dangereux et bon lutteur, bah il l'a dominé au sol. Et c'est pour ça que on aurait tendance à dire que pour ce combat-là, Moicano, ça peut être un combat qui se passe debout et ça peut être très intéressant debout, mais comme on va en voir le voir dans quelques secondes, Jalin Turner, il est tellement flippant debout que ce serait presque dommage si Moicano n'essayait pas de tirer son plus gros atout, qui est d'aller au sol avec sa lutte, même quitte à tirer la garde, etc. Mais, dernier exemple en date quand même pour Moicano, pour dire à quel point il est chaud, c'est que lorsqu'il a combattu contre Brad Riddle, qui est un gros kickboxer de la team Acity Kickboxing, il est connu pour son kickboxing, et pourtant c'est debout qu'il a d'abord fait la différence, Renato Moicano. Et vraiment, il l'a démantelé debout, et avec puissance, précision, affûtage, etc. Donc voilà, si ça reste debout, ce sera intéressant, mais la raison pour laquelle il a plutôt intérêt à utiliser son Vatu Moicano, c'est que Turner, bon déjà, on a affaire à un finisseur 100%, c'est-à-dire que sur 14 victoires, il est à 100% de finition. Debout, c'est rien de flashy ni flamboyant, c'est pas des spinning back kicks, des spinning back elbows, des trucs, des roues sans les mains, etc. Mais par contre, il est d'une efficacité, c'est redoutable. Mais vraiment, c'est redoutable. Et il est grand, il est longiligne, bah la tarentule, tu connais. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. C'est que t'as vraiment l'impression d'une araignée dans l'octogone. Alors, il avance, il est très flegmatique, t'as vraiment l'impression que son rythme cardiaque, il est à 20 pendant tout le combat. Et il a ce côté, il peut tout mixer. T'as l'impression qu'il voit venir parfois les choses en avance, tellement il est détendu dans la cage, tellement il a vraiment cette vision, ce sang-froid et ce coup d'œil. Les genoux, les coudes, c'est direct qu'il met. Le KO qu'il a mis très récemment contre Bobby Green, il est impressionnant avec le fait... Et c'est con, hein. Quand je dis qu'il n'est pas flamboyant, c'est bah, il met son double jab juste histoire de verrouiller dans l'espace la tête de Bobby Green. Et une fois qu'il l'a verrouillé avec son double jab, poum, il revient avec son crochet par-dessus et il le termine comme ça. Et c'est vraiment que des trucs comme ça. Et en plus de ça, en plus de debout, il fait très très mal aussi. Vraiment très très mal. C'est un cauchemar de Bujain Turner. Et en plus de ça, là où ça va être chaud pour Moïcano, mais ça va être un combat intéressant, c'est que bah, il n'est pas facile à amener au sol en plus, Jane Turner. Et quand tu l'y amènes, alors il a quand même une préférence quand c'est près de la cage parce que, et quand tu ne lui contrôles pas direct le haut du corps, parce que du coup, il se relève, boum, il se pousse, il va contre la cage et il est très bon pour se relever contre la cage. À l'ouvert, il a beaucoup plus de problèmes et on l'a vu galérer. Comment s'appelle-t-il le gars qui avait combattu Fares Ziam et qui a une tête un peu de menu de jeu vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, peu importe. Et du coup, il avait été. Mis au sol et contrôlé par ce gars-là. Et contre, comment s'appelle-t-il aussi ? Zut, le Polonais, Gamrot. Et contre Gamrot dans le combat qu'ils ont fait récemment. Alors déjà, il a perdu, mais c'était super chaud. C'est-à-dire que Gamrot, honnêtement, je pense que s'il y a un ou deux rounds de plus, il n'est pas bien. Mais il n'est vraiment pas bien, le man. Parce que Jalin Turner commençait à capter son rythme, parce qu'il commençait à vraiment, vraiment se mettre bien. Et que Gamrot n'arrivait plus, alors que c'est un des meilleurs pour tout mixer, mettre au sol, etc. Il n'arrivait plus à le mettre au sol avec efficacité et à l'y maintenir. Et debout, il est terrifiant, c'est un sniper. Donc, et en plus de ça, en termes de soumission, c'est là où c'est très intéressant stylistiquement, parce qu'il n'a jamais été soumis de sa carrière non plus, Jalin Turner. Donc voilà, tout simplement.
Alors,
et
qui gagne ?
Je mettrai avantage pour Jalin Turner. Ouais. Je le vois faire la différence debout, même si ça va être chaud. Et je sais pas si...
Il arrivera à le finir.
Je sais pas si Moïcano arrivera à le finir au sol et à le contrôler au sol. C'est possible, surtout s'il le fait à l'ouvert. Mais Jalin Turner, j'ai l'impression que là, il est dans un run... il est terrifiant. Je mets Jalin Turner.
Jalin Turner, ouais. Je mets Jalin Turner par décision unanime. Après cette carte préliminaire précoce, bonjour à nos amis québécois, on passe au préliminaire Big Rusty avec le premier...
Pourquoi bonjour à nos amis québécois
parce que c'est eux qui disent préliminaire précoce.
Ah, c'est vrai, ils disent carte précoce
Préliminaire précoce pour les early prelim.
Oh là là.
Et donc on avance avec la carte préliminaire avec Sodiq Youssouf contre le favori des fans, le brésilien Diego Lopez, qui avait impressionné tout le monde lors de son premier combat à l'UFC, synonyme de défaite mais ô combien disputé, face à Movsar Evloev.
Bah, ça c'est pareil, ils ont fait des combats pour régaler, c'est sûr, l'UFC, pour l'UFC 300, bah, là c'est typiquement ça, c'est deux mecs qui viennent, qui frappent comme des mules, qui viennent pour le finish, particulièrement Diego Lopez. Ce gars-là, enfin, il est étrange quand tu le vois comme ça avec son tatouage, donc c'est quoi, attends, je l'ai noté, Dream, Believe and Make It Happen, mais sauf que c'est écrit, t'as l'impression que le tatoueur a 7 ans, c'est très bizarre, c'est dessiné
presque. Ah, c'est
un tatouage. Il a un look avec un petit peu son iroquoise, etc. Alors par contre, quand la cage se ferme et que le combat commence, plus personne ne rigole. En fait, il est bon partout, il fait mal absolument dans tous les domaines, et en plus un truc que j'adore avec Diego Lopez, c'est que non seulement il est complet, il fait mal, et c'est pour ça que c'est agréable, c'est qu'il veut aller au finish, et il est ultra opportuniste. C'est un gars, alors c'était contre qui déjà qu'il a mis son triangle, où en gros le gars tente de lui faire un takedown, et c'est rare qu'on voit ça à l'UFC, de tenter sa chance comme ça, et ben pendant qu'il est en train d'être amené au sol, Diego Lopez, pam, il part sur un triangle, limite en vol, et il le met, et il le verrouille, et il gagne le combat comme ça. Et c'est que des trucs comme ça, c'est-à-dire que il est vraiment très très bon, il fait très très mal debout, mais dans tous les domaines, dès qu'il y a une opportunité, il n'hésite pas et il y va. Et c'est le propre des finisseurs, parce qu'ils calculent un petit peu moins, ils y vont un peu plus avec le flow et avec vas-y, je vois une ouverture, j'y vais, je fonce. Ce qui peut, avec des gars par exemple comme Lopez ou Oliveira, aussi faire que du coup ça crée des ouvertures. Mais ça rend les combats super excitants. Et en face de ça, Sodiq Youssouf, un tank, mais vraiment un tank. Ça dépend de comment est-ce qu'il arrive, mais généralement son style c'est ultra compact. Il arrive, mais vraiment comme un tank où ce qu'il veut c'est trouver le moment pour te mettre le plus gros bourre-pif possible. Il fait des trucs qui sont grave cool aussi, notamment un truc, alors là c'est vraiment un truc de connaisseur un peu machin, mais il fait ce qu'on appelle des Yosa Kicks, et personne ne le fait à l'UFC, ou en tout cas j'ai vu personne le faire. Alors c'est con, mais c'est une petite friandise où en gros, quand les deux sont de la même garde, en fait tu mets un espèce de gros pointard avec ta jambe arrière dans la jambe arrière de l'adversaire. Il l'a fait contre Edson Barbosa. Et c'est juste des trucs comme ça, je kiffe parce que c'est, on le voit pas souvent et donc j'en profite pour le dire. Et à part ça, voilà, comme tout est puissant chez lui, qu'il est très, bah, il est compact, hein, vous regardez son physique, vous tapez tout Sodiq Youssouf sur internet, vous allez comprendre. Bah, que ce soit en clinch, que ce soit ses kicks, que ce soit son anglaise, il vient vraiment pour détruire ou être détruit. Et c'est pour ça que là, comme c'est en 3 rounds en plus, il a une grosse musculaire, ce qui peut peut-être poser problème et posera problème plus tard si c'est des 5 rounds. Là, du coup, il va pouvoir probablement y aller un peu plus. Son dernier combat contre Barbossa, c'était 5 rounds. Donc,
premier main event pour lui.
Voilà. Mais voilà, ça va être probablement, un feu d'artifice encore une fois. Vraiment, je sais pas. Je vais mettre Diego Lopez parce que... Merde, toi aussi.
Moi aussi.
Ah,
moi
tu fais
aussi,
chier, hein.
Diego Lopez.
Qu'est-ce qu'on va faire? Je mets quand même Diego Lopez parce que je me dis... Il va peut-être au sol, mm-hmm, sur une phase où à un moment donné il change de niveau, il amène Sodiq Youssouf au sol et il le termine. Je sais pas, je vois bien un truc comme ça. Mais debout, ça va être flippant. Debout, pour l'un pour l'autre, s'ils restent debout et que l'un en face de l'autre et qu'ils tentent leur chance et qu'ils laissent un peu trop d'ouverture, il va y avoir des bruits de noix de coco à des moments. Ça va être terrible.
On enchaîne avec le choc entre Holly Holm et Kayla Harrison. Kayla Harrison, ancienne championne du PFL, star du PFL. Et Holly Holm, que vous connaissez sans doute, hein, actuellement classée 5e chez les bantamweight, 42 ans, Holly Holm. Et qui va tenter, pourquoi pas, de recréer l'exploit retentissant qui avait eu lieu en 2015 contre Ronda Rousey, qui était elle aussi une très grande judokate.
Ouais, c'est vraiment marrant, comme c'est exactement la même physionomie de combat, parce que c'est... une fille qui arrive, que tout le monde voit comme invincible. Alors bon, pour le coup, elle a été battue au PFL, Kayla Harrison, en 5 rounds contre Larissa Pachenko. Mais elle arrive et elle est quand même vue comme une monstre du judo. Elle est 2 fois championne olympique. Elle croule sous les médailles dans cette discipline-là. Et en MMA, bah, à part cette défaite-là, avant ça, elle était invaincue. Elle roulait absolument sur toutes les filles. Néanmoins, et il faut quand même souligner... bah, c'est pas... Alors là, la catégorie, c'est donc bantamweight.
Bantamweight, oui. Déjà, il voilà. Y a une grosse question sur va-t-elle faire le poids.
Ah oui, parce que faut savoir que quand elle combattait... Donc bantamweight, moins de 61 kilos. Quand elle était en judo, elle combattait Kayla Harrison en moins de 78 kilos. Et en MMA, elle combattait en moins de 71. Et la dernière fois, elle a fait un catchweight, un truc comme ça. Donc ça devait être en 69, un truc comme ça. Donc là, en bantamweight, elle va devoir descendre de 2 catégories. Et franchement, pour elle, ça va être le plus gros combat en réalité de la semaine. C'est réussir à faire le poids parce qu'elle passe d'une catégorie en moins de 71 où elle galérait, où c'était déjà compliqué de faire le poids. Et là, elle doit faire 10 kilos en dessous. Et en plus, vous allez voir comme elle est galbée. Ouais, c'est un tank aussi, Kayla Harrison. On sait que c'est plus difficile pour les femmes de perdre le poids et le weight cut. Je sais vraiment pas comment elle va faire, mais elle a l'air confiante. Enfin, de toute façon, elle, coûte que coûte, elle voulait aller à l'UFC. Donc, mais je sais pas à quel point il va y laisser des plumes. Et sinon, pour ce qui est du combat en lui-même, debout, Kayla Harrison au PFL, je l'ai pas trouvé vraiment ultra impressionnante. C'est juste que, comme Ronda Rousey, quand elle te chope, tu ne peux pas faire grand chose et bah, elle te termine généralement en soumission ou en ground and pound. Contre Pachenko, elle avait galéré, mais aussi le physique de Pachenko l'avait pas mal aidé. Là, elle sera, si elle arrive à faire le poids et qu'elle en regagne suffisamment, elle sera probablement beaucoup plus puissante qu'Holly Holm. Mais moi, honnêtement, je vois bien aussi, comme elle a quand même cette science du striking, Holly Holm faire ce qu'elle a fait littéralement à Ronda Rousey, en fait.
Il y a juste cette question de l'âge et de... Bah,
c'est ça.
De Holly Holm, le temps est passé quand même.
Ah, le temps est passé et c'est clair que... C'était quoi, il y a 10 ans, Ronda Rousey, un truc
ouais,
comme ça.
9 ans.
Voilà, 9 ans. Elle est plus aussi athlétique, plus aussi rapide, plus aussi percutante qu'elle ne l'était avant. Athlétiquement, c'est voilà, forcément, elle sait plus ce que c'était, Holly Holm. Elle a quand même cette science du striking. C'est une ancienne kickboxeuse professionnelle. C'est son fort. Donc, stylistiquement, ça peut l'avantager d'essayer de rester à distance, de saupoudrer Kyle Harrison, de jabber, quitte à jabber all night long, tu vois, pendant les 3 rounds, mais sans prendre trop de risques. Mais techniquement parlant, compétence pour compétence, striking, elle est tellement en avance par rapport à Kyle Harrison que c'est vraiment là où elle peut faire la grosse différence. Parce qu'effectivement, si elle se fait choper quand même Holly Holm, je pense que ça va être très très compliqué. Parce que c'est vraiment un ours, Kayla.
Alors,
Je vais mettre Holly Holm. Je la vois bien arriver à échapper à Kayla Harrison sur 3 rounds, mm-hmm, quitte à vraiment faire un combat chiant, hein, quitte à rester à distance et à jabber et à ne rien faire. Mais je pense qu'elle peut et qu'elle a l'intelligence de combat suffisante et la discipline pour lui échapper.
Et je vois également Holly Holm par TKO au 3e round. On passe au combat suivant, particulièrement intéressant, les débuts de l'ancien champion bantamweight Aljamain Sterling, qui monte de catégorie, donc chez les featherweight, face à Calvin Kattar, bien connu des fans puisque c'est un membre durable du top 10 dans la catégorie, qui a connu ses limites là aussi, hein, avec notamment cette terrible défaite contre Max Holloway, et c'est une belle porte d'entrée pour Aljamain Sterling, et les deux, vraiment, du côté des bookmakers aux États-Unis, c'est équivalent en termes de chances de victoire.
Oh, ah, ils mettent pas Sterling.
On est à moins 108 pour Sterling et moins 112 pour Qatar.
Ok, bah intéressant. Bah c'est Qatar stylistiquement, c'est donc, alors c'est un des plus gros diracueurs de la catégorie, c'est un des gatekeepers, ce qu'on appelle gatekeeper, c'est-à-dire qu'un gars qui est pérenne dans le top 15 et que tu mets quand tu veux voir un peu où en est un prospect, où en est un gars qui débarque, parce que tu sais qu'il a un gros niveau. Qu'est-ce qu'il y a ?
Le gardien de la porte.
Voilà, le gardien de la porte. Et donc, ça fait très longtemps qu'il est dans le top 15. Alors, stylistiquement, Qatar, c'est une très grosse anglaise. Il a un jab, c'est magnifique. C'est vraiment juste au bout du jab. Il vient de claquer le visage juste avec la fin du mouvement. En mécanique de frappe, c'est magnifique. Il utilise aussi pas mal ses kicks, ses front kicks notamment, et puis un petit peu de low kick. Ce qu'il veut, c'est donc rester debout. Il essaye généralement de résister au takedown ou de ne pas aller au sol le plus possible. Tandis que pour Aljamain Sterling, bah on le sait, c'est du MMA total, c'est-à-dire qu'il va utiliser une grosse pression où debout il fait la totale, il va faire des genoux, des low kicks, des coups de poing, des coups de coude, des coups retournés, absolument n'importe quoi, en avançant sur toi et en essayant de te cadrer, en te mettant la pression le plus possible. Et il est quand même assez efficace debout, alors il met pas des gros knockdowns, des trucs comme ça, mais il fait quand même mal. Hein. C'est, si tu t'appelles pas Petrian, il y a des genoux qui passent dans la bouche, normalement ça éteint quand même. Et une fois au sol et ou en lutte, c'est surtout là que ça va se jouer. Donc probablement que c'est ce que va vouloir faire Aljamain Sterling, utiliser sa lutte, mettre Calvin Kattar au sol. Parce que au sol, oui, il monte d'une catégorie Aljamain Sterling. Donc physiquement, ça peut être peut-être plus compliqué qu'il n'avait l'habitude chez les moins de 61.
Mais
enfin, il est tellement, tellement loin dans le game, tellement compétent. Il a tellement réussi à faire ce qu'il voulait contre les meilleurs du monde que je me dis que ça peut passer contre Calvin Kattar.
Et surtout donc, que c'est quelqu'un qui était limite laissé pour mort pour faire le poids chez les bantamweight.
Ouais, voilà, c'est ça. Là, il va être dans sa catégorie naturelle. Donc, j'aurais tendance à dire Aljamain Sterling et peut-être pourquoi pas soumission.
Oh, ok. Bah moi, je vois une victoire d'Aljamain Sterling par décision. Ça fume, ça fait vraiment. Pourquoi pas par soumission si la chance, si l'occasion se présente.
Si la chance lui sourit.
Voilà. Ciao, my sweet pea. My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, ça apparaît ici, ça apparaît
ouais,
là.
T'inquiète pas, je m'en occupe.
Vous avez le thé glacé, les boissons de réhydratation et boisson énergisante, bye. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, vous avez moins 10%.
Et nos savons Onae aussi.
Ben oui.
Et qui apparaissent là.
Tada! Disponible sur le site.
See ya.
Allez, au revoir.
I'm fucking coming for you!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.